Alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adicias et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme tous les jeudis de 9h30 à 10h sur Radio Occitanie. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier parce que c'est la 10e émission de Page à Page, donc pour moi c'est un jour particulier, pour vous aussi j'espère. Et donc j'avais envie de faire quelque chose d'un peu insolite et j'ai décidé donc de vous lire un passage d'un carnet de voyage de quelqu'un, d'un globe-trotteur qui a parcouru pas mal de pays dans le monde entier et qui à chaque fois a fait des carnets de voyage pour chaque pays qu'il a visité. Et bon, il n'est pas connu dans le sens où il n'est pas publié, mais ces carnets de voyage, j'ai pu les avoir. Et donc, c'est pas moi, hein, je vous rassure de suite, c'est pas moi qui ai écrit ces carnets de voyage, j'ai pas autant voyagé. Et donc, j'ai décidé de vous lire un de ces voyages qui se passe au pôle Nord. Et donc, j'espère que ça vous plaira autant que moi, ça m'a plu. C'est écrit très simplement, c'est intéressant et voilà. Donc, je vais vous raconter un petit peu le passage, enfin le voyage, le début pour vous situer là, au pôle Nord, comment ça s'est passé. Donc, c'est une randonnée en kayak le long des côtes du Spitsberg, l'île principale de l'archipel de Svalbard, à l'extrême nord de la Norvège, au-delà du Cap Nord. Donc c'est vraiment bien, bien vers le pôle Nord. Et donc le groupe se compose de plusieurs personnes, des filles, des garçons. Donc il y a Axel, il y a Patrick, Marie-Jo, Hervé, Pascal, Thierry, Michel, Jacques, Caroline et Sylvain. Voilà. Donc je vais commencer à vous lire le début. Donc c'est raconté un peu comme un journal, comme un journal de bord, on va dire, par le personnage principal que je ne nommerai pas forcément, hein, puisque c'est écrit à la première personne du singulier. Et donc il y a les autres personnages qui gravitent autour de lui, ses compagnons de voyage, etc. Donc c'est une randonnée qui a duré en gros, je crois, 10 jours. Mais bon, je vais pas vous faire les 10 jours. Je vous ai trié un peu les passages les plus amusants, entre les phoques, etc. et les ours. Non, il n'y en a pas d'ours. Mais bon, voilà, donc je vais commencer. Laurent, notre guide, ressemble, paraît-il, à un ours. Ben tiens, justement. Il est d'origine corse. Il semble très calme et assez sympa. Il n'a pas l'air très directif. On commence à subir la psychologie de groupe. Pascal propose de vivre en décalé, en profitant des tranches horaires où apparaît le soleil, qui sont, paraît-il, plutôt la nuit. Mais l'idée a du mal à passer. Les gens préfèrent nous bourrer le mou et s'auto-inquiéter sur les risques de rencontre avec un ours. Laurent a beau nous dire que l'on n'a pratiquement aucun risque de voir des ours blancs, car ils restent là où sont les phoques en quantité. Eux-mêmes restent là où il fait froid, c'est-à-dire plutôt sur la côte est, alors que nous irons sur la côte ouest de l'île qui bénéficie du Gulf Stream, ce qui rend la zone assez tempérée. L'été, oui, c'est un voyage qui se passe au mois d'août, hein, faut préciser, forcément. Donc le groupe ne peut pas s'empêcher de se faire des romans en imaginant ce que l'on fera en cas de rencontre avec un ours et comment on utilisera la carabine, car les règles de sécurité sur l'île sont assez strictes. Il faut laisser son itinéraire précis au service du gouverneur et avoir une arme à feu avec soi. On bénéficie aussi d'un rayon de soleil avant de nous coucher. Mardi 3 août, je partage une tente avec Axel. Laurent nous réveille vers 6h30 afin que nous soyons prêts lorsque le pick-up d'un indigène viendra nous chercher pour nous emmener avec nos bagages jusqu'au port. On plie les tentes et on prend le petit déjeuner sur la terrasse qui dessert les lavabos et les toilettes, et ce qui non seulement nous permet d'être à l'abri du vent et de la pluie, mais aussi d'avoir de l'eau bien chaude au lavabo qui, paraît-il, coule à 60 degrés. Laurent est assez prudent et nous a réveillés avec une bonne heure d'avance, ce qui fait que l'on en attend le pick-up encore à 9h. Il finit par arriver et il fait deux voyages avec la montagne de bagages qui constitue tous les sacs de bouffe, ceux des kayaks et nos affaires personnelles. On s'assied à l'arrière sur le pick-up, cela me rappelle la traversée du désert d'Alexandrie au Caire, sauf qu'il n'y a pas le même paysage ni la même température. on reprend en sens inverse le chemin que l'on a parcouru la veille. Le paysage est toujours aussi gris et triste, sans un arbre, avec des petites mousses de droite ou de gauche et des montagnes assez cassées par les glaciers. En arrivant au port, on charge tous les bagages sur le bateau, qui est accosté à un cargo. Nous sommes pratiquement les seuls passagers sur le bateau. Il nous dépose à côté d'un cap, puis il va à Pyramidal à déposer les autres passagers. Pyramidal qui est aussi une autre communauté de l'île. Le bateau marche pendant une heure et les autres sont plutôt sur le pont à admirer le paysage. À l'arrivée, il faut mettre des bottes, puis on prend un Zodiac qui nous transbahute en 3 ou 4 voyages jusqu'à une plage où les bottes s'avèrent utiles pour faire les 2 derniers mètres jusqu'à la plage. Nous voici débarqués pour 10 jours d'autonomie, seuls avec notre montagne de bagages, des ateliers secrets pour installer le camp. Je pars avec Thierry pour trouver un point d'eau et remplir un jerrycan. On trouve un de ces petits cours d'eau qui descendent des glaciers jusqu'à la mer. Il paraît que l'on peut trouver ces cours d'eau pratiquement sur toutes les plages. On constitue un petit barrage pour faciliter le remplissage des jerrycans et des thermos. En revenant, je m'arme de la scie et de la hache, qui sont malheureusement des jouets pas très efficaces, et je tente de débiter des planches qui traînent par là. Mais on a plus vite fait de les casser avec le pied. Le feu a démarré grâce à un petit réchaud et à des allumettes étanches de Michel. Sur toutes les plages, on trouve aussi du bois, qui dérive depuis les bois de flottage sibériens, c'est-à-dire des bûches et des planches qui se sont égarées depuis la Syrie et qui n'ont pas été récupérées au point d'arrivée du transport flottant. Il y a aussi des planches qui proviennent visiblement de cabanes abandonnées. Il a dû y avoir des mines de l'autre côté du fjord car on voit encore l'entrée du tunnel de la mine. Nous sommes gratifiés d'un beau soleil qui chauffe pas mal, au point que pour terminer mon travail de sillage, je me retrouve en chemise ainsi que pour le déjeuner. Nous savourons les steaks qui sont, paraît-il, les derniers représentants du monde animal que nous mâchons avant longtemps. L'ambiance est assez bonne, tous rassemblés autour du feu qui chauffe à bloc. Heureusement, car le soleil n'a pas brillé longtemps et on remet rapidement les laines polaires, car en plus le vent se lève. Il y a un atelier montage des kayaks qui se prolonge dans l'après-midi. Mais c'est un travail précis qui dépasse tout à fait mes compétences et capacités, alors qu'Hervé a l'air d'être assez doué. J'aide tout de même à gonfler les ballasts et à équiper chaque bateau avec pelle, écope, jupe et siège. Après avoir monté un bateau pilote en plus de deux heures, nous nous répartissons le montage des autres qui est un peu plus rapide. Je me réveille à temps pour aller me balader avec Patrick, qui est le dernier dans le camp. Tous les autres sont déjà partis en balade. Nous allons jusqu'au fond du fjord, longeant la plage à l'allée. La grève est composée de cailloux, de rochers plus ou moins cassés par les glaciations annuelles qu'ils subissent. Avec toujours au mieux cette mousse épaisse pour toute végétation. Le paysage reste beau, bien que très désolé. Il y a des ruisseaux qui coulent de la montagne jusqu'à l'eau. Ici, il y a peu de poissons car l'eau est peu salée avec tous ces ruisseaux. Du coup, c'est une autre explication à l'absence de phoques qui vont là où il y a du poisson et donc pas d'ours. Au retour, on passe plus sur les mousses qui surplombent de 2 ou 3 mètres la grève. On revient au camp et j'ai complètement perdu la notion de l'heure qu'il est entre ma sieste et la balade. Nous nous retrouvons à 4 au campement. Les autres ont l'air un peu ronchons ou conformistes. En tout cas, ils râlent parce qu'il est, paraît-il, 9 heures et que les autres ne sont toujours pas rentrés pour le dîner. Grâce à la faim, je n'ai pas trop de peine à les persuader de ne pas attendre et de vivre leur vie comme ils l'entendent, sans se faire des nœuds au cerveau. On se fait donc une bonne omelette sur le feu de bois avec la moitié des œufs qui restent. Puis je vais me coucher alors que les promeneurs ne sont pas encore rentrés. Ils sont montés sur une colline plus ou moins éloignée du camp et ceux qui sont revenus au camp, Michel, Patrick, Caroline, Jacques, commencent à s'inquiéter de ne pas les voir revenir. Mercredi 4 août, Laurent nous réveille assez tôt vers 7h ou 8h car le vent commence à se lever. C'était le calme plat vers 4h du matin et maintenant le vent se lève et les vagues avec. Il nous faut donc nous dépêcher de nous préparer au départ afin de profiter du répit qui nous reste avant le mauvais temps. Mais les préparatifs ne sont pas très rapides. Entre le petit déjeuner, le pliage des tentes, les paquetages de chacun et le chargement des kayaks, il nous faut 2 bonnes heures. Entre-temps, le vent s'est vraiment levé et la pluie tombe. On essaye les combinaisons sèches que Laurent nous distribue en fonction des tailles, small, medium et large. Il s'agit de combinaisons que l'on rajoute par-dessus nos vêtements, avec des poignets et des chevilles en latex, ainsi que le cou, maintenant une étanchéité. Laurent nous recommande de passer les latex délicatement pour ne pas les abîmer, les déchirer. Il faut fermer une fermeture éclair sur le ventre qui est assez dure, ce qui permet de passer le corps. Tous habillés comme cela de blanc et de rouge, on a vraiment l'air de mécanos sponsorisés par Marlboro pour l'écurie McLaren. Nous sommes enfin prêts à partir, mais le vent est assez fort et il ne serait pas prudent de se lancer sur la mer. D'autant plus que le bateau nous a débarqué à un endroit où une longue balade nous attend afin de franchir un cap. On attend donc une accalmie en espérant que le vent soit réglé sur les marées et que comme il y a eu accalmie la nuit, il y aura accalmie l'après-midi. On attend à l'abri d'une petite cabane abandonnée. On se pelotonne derrière pour s'abriter du vent. Je fais un tour pour profiter du vent frais. L'intérieur de la cabane se compose d'une petite entrée avec des étagères où on devait déposer les bottes et fourrures et d'une pièce avec le poêle et la couchette, avec 2 petites lucarnes en guise de fenêtre. Comme le vent se calme légèrement, Laurent décide que l'on peut faire un essai de départ. On envoie Patrick et Marie-Jo dans un bateau pilote. Ils partent faire un essai qui s'avère concluant. Ils avancent dans la bonne direction malgré le vent et le courant contraire. Chaque bateau prend la mer à son tour, avec Laurent qui n'hésite pas à se mettre dans l'eau jusqu'aux cuisses pour nous aider à embarquer et nous lancer. Moi aussi, je remplis mes bottes d'eau en montant à ma place, ce qui me donne l'avantage d'avoir les bottes remplies d'eau glacée pendant toute la traversée. Mais grâce à la combinaison sèche, le froid se cantonne aux pieds. On se met à ramer, il y a pas mal de courant et de vent contraire, et au début, l'échauffement des muscles est un peu difficile. Les muscles souffrent un peu, mais on finit par prendre un rythme de croisière qui est agréable. Les bateaux sont bourrés avec tous les paquets que l'on a glissés entre nos jambes, car pour minimiser notre résistance au vent, Laurent nous a conseillé de ne pas mettre de sac sur le pont arrière, comme cela pourrait, paraît-il, se faire dans les prochaines étapes. Contrairement à ce qui est conseillé, je n'ai pas inversé mes pagayes, malgré la prise au vent que cela peut entraîner, car cela m'évite de trop déconcentrer mon effort sur la position des pagayes par rapport à l'eau, en étant obligé de faire un quart de tour plus ou moins précis. Je forme équipe avec Axel, et nous formons un équipage assez performant, si j'en crois notre position presque permanente en tête de colonne. Avec Patrick et Marie-Jo, qui ont aussi une bonne cadence. En fait, nous ne forçons pas beaucoup plus que les autres, mais surtout, nous sommes bien réguliers et tous les coups de pagaille portent leurs fruits, alors qu'il me semble que les autres ont un rythme calé sur le babillage, sur des pauses assez nombreuses et sur des sautes d'énergie plus ou moins efficaces. Sans compter les difficultés et erreurs de manœuvre avec des safrans qui sont plus ou moins faciles à utiliser et qui obligent parfois à un surcroît d'effort pour compenser la dérive. Axel a été assez vigilant à choisir un bateau avec un bon safran, même si c'était au détriment d'une jupe qui n'adhère pas au bateau et qui nous fait embarquer quelques paquets d'eau lorsque l'on prend des grosses vagues de face ou de travers. Laurent nous recommande de bien prendre les grosses vagues et notamment les rouleaux de face, car de côté on peut être roulé à la baille, alors que de face on avale facilement les vagues. Bref, sans forcer, en étant bien synchro, nous sommes toujours en tête, obligés de faire de temps en temps de longues pauses pour attendre les autres. Ce qui nous refroidit et nous agace un peu, surtout que l'on a assez mal aux fesses sur ces petits sièges très frustes, à l'arrêt, elles se font encore plus sentir qu'en pédalant. On a toujours le vent contraire et on avance vers un cap qui s'avère encore plus loin que ce que l'on espérait. Les distances dans ce pays morne sont vraiment trompeuses. Au bout de 5 à 6 heures, on finit par franchir ce cap. À son passage, il y a des hauts fonds qui provoquent des rouleaux. Et Axel nous positionne bien face à notamment 3 rouleaux que l'on n'aurait pas aimé prendre de côté. Mais de face, c'était plutôt rigolo. Moi, à l'avant, j'ai pris 3 belles claques et ma jupe a laissé passer quelques litres de flotte. Régulièrement, on s'arrête pour faire des radeaux en mettant les bateaux côte à côte pour se reposer, prendre un bol de soupe instantanée avec les thermos d'eau chaude et manger des barres Mars et autres céréales. J'en ai une provision dans ma banane sur le ventre. Prévoyant le garçon, n'est-ce pas ? Malgré le mauvais temps, le pays, c'est moi qui l'ai dit ça. Malgré le mauvais temps, le paysage est assez beau autour de nous. Nous longeons une côte assez montagneuse avec des entrées de fjords qui se profilent au loin et vers l'ouest, l'ouverture vers l'Atlantique. Aussi loin que portent mes regards et pas seulement les miens, nos regards et pas seulement les miens, aucune trace de végétation, sauf de temps en temps ces plaques de mousse sur un coteau. Les roches sont assez noires, augmentant d'autant l'impression d'austérité. Le soleil, lorsqu'il veut bien paraître, nous montre qu'il fait gentiment le tour de l'horizon, sans jamais être très haut. À midi, il est plein sud, à la hauteur que l'on aurait eue en France à 4 heures de l'après-midi. À minuit, il est au nord, à la hauteur de 8 heures du soir en France. Car étant à l'heure française, on a 2 heures d'avance sur le soleil, moins 1 heure de décalage par rapport à Greenwich. On finit malgré la difficulté à évaluer les distances par franchir le fameux cap, après lequel nous ramons depuis tant d'heures. Au cap, on rencontre pas mal de hauts fonds qui provoquent des rouleaux. Mais Axel nous a habilement placés face encore à 3 gros rouleaux qui s'enchaînent et nous sommes pour quelques litres d'eau embarqués par les jupes au velcro perméable. Et moi, pour 3 claques bien mouillées, ce qui est encore plus drôle. Même si on ne sait pas combien de temps on tiendrait tombé à l'eau, avec les autres qui sont loin derrière, on ne peut pas s'empêcher d'apprécier ces moments, enfin un peu agités. On fait encore quelques kilomètres après le cap, avant de trouver un endroit propice pour le campement. Nous abordons sur la plage. Laurent se jette complètement à l'eau, pour nous aider à accoster, malgré les rouleaux qui sont assez forts et les bateaux plus que chargés. Après 8 heures d'exercice continu, nous sommes bien fatigués pour une journée de mise en jambe, au point que nous peinons à hisser les bateaux sur le haut de la plage. Il faut dire que certains ont embarqué pas mal d'eau et tous ont un poids de bouffe et de bagages non négligeable. Laurent se donne à fond et se retrouve vraiment épuisé. Je dois dire que personnellement, c'est surtout aux fesses que j'ai vraiment mal. On installe le campement. On ne trouve pas de point d'eau vraiment proche. Mais il y a une eau un peu saumâtre, pas trop loin, qui fera l'affaire. On plante les tentes sur la terre de mousse qui domine la grève. Personne n'a le courage ou l'initiative de faire un feu de bois et je ne me sens pas capable de trouver tout seul du petit bois qui reste le plus dur. Car comme partout, la plage est jonchée de bûches, mais il faut parcourir la plage le nez au sol pour trouver des petits morceaux. Du coup, on chauffe une soupe sur le réchaud à essence, mais on a assez froid autour de ce réchaud, car il ne nous réchauffe pas et un vent assez glacé souffle en permanence. On ne tarde donc pas trop à aller se coucher. Chacun a mis ses affaires à sécher. Personnellement, c'est mon sac noir qui a subi l'épreuve de l'eau. Il est trempé ainsi que les affaires qui restaient dedans. Heureusement, toutes les affaires précieuses étaient au sec dans des sacs étanches et solidement fermés par Axel. Jeudi 5 août. Nous sommes tout de même assez fatigués et pendant une dizaine d'heures, le campement reste plongé dans le silence. Lorsque je me réveille, l'absence de bruit extérieur m'incite à rester dans mon sac de couchage. Car même s'il fait trop chaud dedans, il faut prendre son courage à deux mains pour sortir, affronter le vent et remettre les chaussettes mouillées. Je finis par me lever lorsque j'entends quelques bruits dehors. Le temps est plutôt mauvais, encore très venteux. On prend le petit déjeuner, toujours autour du réchaud. Je prends goût au régime des céréales sèches, sans lait, comme me l'a montré Laurent, car le lait en poudre n'est vraiment pas terrible. L'inconvénient des céréales sèches, c'est que l'on a vraiment l'impression que les molaires se développent et qu'il faut mâcher cela comme un âne gourmand. C'est une image assez... animal. Tout de même, mais j'en prends tout de même plusieurs bols. Cela a l'avantage de bien caler. Bien sûr, Laurent était le premier levé et il a préparé le petit déjeuner. Les autres émergent peu à peu de leur tente. Marie-Jo est la première fille d'attaque. Les deux autres sont moins vaillantes. Il faut dire que Pascal est toujours de loin la dernière prête, ce qui présente au moins un avantage. C'est que je peux prendre tout mon temps sans crainte de faire attendre le groupe. L'inconvénient, c'est qu'il faut au moins une paire d'heures pour décoller. On remet nos combinaisons mouillées, nos chaussettes et nos bottes et on rentre et on remonte dans les bateaux. Au préalable, pour partir d'un endroit plus propice de la côte, on doit porter les bateaux et les paquets sur 200 mètres le long de la plage. Car là où nous sommes, il y a des rouleaux pas très engageants. Certains bateaux sont vraiment lourds à porter, notamment celui de Laurent qui, comme il est tout seul à bord, se trimballe l'essentiel de la bouffe. Et malgré tout, son style et son rythme de pagaille sont tels qu'il nous distance comme il veut. On se remet à pagayer cette fois-ci, on a un courant un peu plus favorable, avec toujours une houle qui vient de l'Atlantique et qui est assez forte. On traverse un grand fjord dans sa largeur pour aller sur la côte opposée. Puis après avoir bénéficié d'un courant favorable, on pénètre dans un autre fjord qui est vraiment très calme. Cela devient de la balade du dimanche. On est encore en tête et on se fait engueuler par Laurent parce que l'on n'en reste pas groupé. Alors Axel et moi, on essaye de rester au milieu du groupe, mais on doit vraiment se donner du mal pour ne pas ramer vite. On en profite pour avoir des conversations plus sérieuses que la veille, où on avait franchement rigolé tout au long de la journée. Patrick et Marie-Jo nous tiennent moins souvent compagnie en tête. Le temps est toujours assez mauvais, très couvert, mais le paysage est toujours aussi beau, avec des montagnes le long de la côte. L'air est assez doux. Grâce à cette mer d'huile, on n'embarque presque pas d'eau. On rame ainsi pendant quelques heures. Certains en ont assez vite marre, mais Laurent nous fait tout de même continuer et nous fait faire une étape un peu plus longue que prévu pour arriver dans un fjord où les eaux sont vraiment très calmes. À l'entrée du fjord, la côte n'est formée que d'une petite falaise. On doit donc l'allonger jusqu'à ce que l'on trouve une plage avec si possible un point d'eau proche. Laurent, toujours optimiste, raconte à qui veut bien l'entendre qu'il n'y a plus qu'un petit quart d'heure à ramer. Heureusement, ce sont les plus fatigués qui prêtent foi à ces encouragements, renouvelés de quart d'heure en quart d'heure. Axel et moi, nous savons bien que nous sommes là, c'est entre guillemets, hein, que nous sommes là pour en chier, et en plus on a payé pour cela. Voilà, c'est un voyage organisé par une compagnie. Laurent, avec qui nous sommes seuls en tête, hésite à nous faire débarquer sur un petit îlot à l'entrée du fjord, mais il ne doit pas y avoir de point d'eau dessus. Finalement, on arrive à une plage avec juste derrière une petite cascade qui forme un petit ruisseau. L'endroit est vraiment charmant. Hervé arrive épuisé et s'affale sur la plage, notamment frappé par une tendinite au poignet. On hisse les bateaux sur la plage et on monte les tentes toujours sur la mousse qui est au-dessus de la plage, en haut des petites falaises. Un débat s'ouvre pour savoir s'il vaut mieux orienter les entrées de tentes vers la mer ou vers les autres tentes. Enfin, on décide que chacun fait comme il veut. On dîne d'une bonne soupe chinoise avec des pâtes qui est très appréciée de tous. On a même droit à du fromage et du pain. Et une mousse au chocolat en dessert, qui est aussi très appréciée par certains. Sans oublier le plat de résistance, petit pois au lard. Le vent souffle toujours assez fort et je réalise que malgré mon masochisme, j'ai deux chandails dans mes sacs complètement inutilisés. Et jusqu'à présent, et qu'un petit pull me donnerait un peu plus chaud, en plus de la laine polaire et le coupe-vent de Didier. Et effectivement, ça marche. Soleil de minuit. Après le dîner, on part se balader, Axel, Marie-Jo et moi, dans les collines qui dominent la mer. Axel ambitionne d'aller voir le bras de mer qui doit se cacher derrière l'une de ces collines. Mais chaque colline en cache une autre, comme les dunes du désert, et nous n'en verrons pas le bout. Dans le creux, entre chaque colline, on trouve des étangs plus ou moins grands. Au bord de l'un d'eux, un oiseau commence à faire des manœuvres d'intimidation et même à faire mine de nous attaquer. Probablement pour protéger sa femelle qui doit couver. Il paraît qu'il pousse la tactique jusqu'à nous entraîner dans la direction opposée à celle de son nid. Ainsi, il attaque, repart, en s'éloignant à chaque fois du nid. Je me mouille un peu les pieds, et ce qui m'agace un peu car je n'étais pas dans l'état d'esprit de faire une si longue balade. Mais elle s'avère très sympa. Le ciel est presque dégagé et on voit le soleil de minuit. On rentre vers le campement, on a un peu du mal à retrouver notre route, car tous ces plis de terrain couverts de mousse se ressemblent tous. Mais on rencontre Laurent qui fait un bout de chemin avec nous. C'est vraiment un moment à savourer d'être ainsi hors du temps, à se balader à 2h du matin, au soleil, dans le calme le plus absolu. On se couche vers 3h du matin. Pascal et Thierry, dans la tente à côté, rigolent encore un bon moment, malgré le manque de sommeil dont ils souffrent, paraît-il. Vendredi 6 août, on dort jusqu'à 10h, soit 3h de l'après-midi pour certains. Après un petit déjeuner toujours aussi dense, en avoine, je fais une grande toilette presque complète dans la cascade. L'eau y est franchement fraîche, mais cela fait du bien de se sentir propre. Je fais une petite balade autour du campement, puis je me retire dans la tente pour y bouquiner un peu. Certains ont refait une grande balade dans les collines, mais un déjeuner de semoule et de purée carotte nous rassemble à nouveau. Un groupe de 8 personnes s'apprête à rejoindre 4 kayaks pour aller faire une balade avec comme but la vue d'un glacier que l'on devine au loin. Laurent l'estime à une dizaine de kilomètres d'après la carte. Malheureusement, le temps s'est de nouveau couvert. Il faudrait décidément vivre en décalé, car il fait bien moins mauvais pendant les heures de nuit. Je propose toujours que nous vivions sans montre, mais mon charisme est loin de faire l'unanimité. Pendant leur balade, certains ont vu des rennes et un renard. Les sportifs embarquent donc direction le glacier. Au début, Laurent veut nous faire caboter. Ce sont des termes bien précis, tout ça. Le long de la côte, puis on coupe le fjord pour aller droit sur le glacier. On s'arrête sur une plage dont on jurerait qu'elle a été travaillée par l'homme. Le sable est très noir, révélateur de la roche charbonneuse, et il y a comme des trous de carrière avec des petites crêtes tous les 20 mètres perpendiculaires à l'eau. Après avoir fait une petite pause, on reprend nos pagaies. On distance Jacques et Caroline, mais le glacier reste très éloigné. Les distances sont vraiment trompeuses. On a l'impression qu'il est juste derrière une petite colline, mais lorsqu'on la passe, on réalise qu'il reste encore au bout du chemin, un bout de chemin à parcourir. En plus, comme le glacier recule d'année en année, la carte est tout à fait trompeuse. Sur la carte, d'ailleurs, sont indiquées les dates des différentes positions du glacier. On voit que celui-ci, qui visiblement court à sa perte, a perdu plusieurs kilomètres en 40 ans. Avant, il s'avançait sur l'eau comme tous les glaciers actifs, mais maintenant, il n'y a plus que la partie terrestre de la rivière qui est gelée. On voit quelques phoques de loin en loin. On passe à côté de quelques icebergs qui sont de plus en plus gros au fur et à mesure que l'on approche du glacier. On en verra certains qui pourraient sans problème soutenir une maison. Les appareils de photo crépitent pour les icebergs et si on est assez vif, pour les phoques. On s'arrête encore sur une petite presqu'île avec plein d'oiseaux qui ont fait leur nid et certaines femelles qui couvent. On espère ne pas les avoir trop dérangées. Jacques et Caroline sont pratiquement hors de vue derrière. Mais on repart tout de même, car Laurent a froid et préfère ramer que d'attendre. On traverse l'espèce de lac que fermait cette presqu'île et enfin on approche du glacier. On s'arrête sur une des dernières plages avant lui. Patrick, qui navigue avec Marie-Jo, est trempé et a vraiment froid. On prend une soupe chaude avec l'eau des thermos, puis on change d'équipage. Je monte avec Patrick, qui commence à fatiguer, et Marie-Jo va avec le moteur Axel, qui reste solide, bien qu'il ait attrapé lui aussi une tendinite du poignet, qui est le mal à la mode en ce moment. Je me suis laissée dépasser par le temps. Moi, j'étais vraiment partie au pôle Nord avec des phoques, des rennes, un équipage, des kayaks. Et alors, je croyais être à la pause musicale, alors qu'en fait, mon cher Roger me dit que nous sommes à la fin de l'émission. Donc, j'espère ne pas vous avoir embêté avec mon pôle Nord. Et on se retrouve jeudi prochain, à la même heure, sur Radio Occitanie. Bonne semaine.